Le CIM 2025 en partenariat avec ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver en direct du CIMI édition 2025 à la porte de Versailles. On vous fait vivre cet événement sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver dans cette émission Espace à la Une. C'est un plaisir à partager avec mes intervenants, évidemment. Alors, on va parler d'un sujet très concret tout de suite pour les acteurs de l'immobilier tertiaire, l'aménagement des espaces de travail. En 2025, on le voit partout dans les allées du salon, le bureau est devenu un véritable levier stratégique. Il doit en même temps attirer, il doit fidéliser les talents, accompagner le travail hybride, très en vogue, incarner la marque et évidemment répondre à des enjeux très très forts de performance énergétique, de durabilité et de bien-être au travail. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux intervenants. Denis Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement chez ID Pro, la marque du groupe Schmitt dédiée aux espaces professionnels. Vous accompagnez les entreprises, mais aussi les acteurs de l'immobilier dans la conception, l'équipement de bureaux et de commerce et de lieux d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la marque? Alors, elle est jeune, hein, cette marque.
ID Pro, c'est la troisième marque du groupe Schmitt. On est né en 2023. On est donc dédié à la création d'espaces professionnels. Tout le monde connaît Schmitt Group par ses capacités à aménager l'ensemble de la maison. On est connu pour nos marques Cuisinella et Schmitt, qui sont présentes sur tout le territoire et dans 22 pays en Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer notre savoir-faire acquis auprès des particuliers sur le professionnel, avec notre capacité dans nos usines 4.0 à faire des aménagements sur mesure au millimètre.
Et notre invité Olivier Ovard, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes le directeur général de Level Up Workspace, qui se positionne comme un acteur global de l'aménagement d'espaces de travail avec une forte expertise sur la conception, le design, le suivi de projet et l'exploitation des espaces. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail ce que vous faites ?
Avec plaisir. Level Up accompagne les entreprises dans la transformation de leur espace de travail, exclusivement dans l'immobilier tertiaire, le bureau à 90%. Contrairement à la très belle entreprise, le groupe de Denis, nous sommes une jeune entreprise qui a 7 ans d'existence et une vingtaine de collaborateurs. Donc on fait de la conception, de la réalisation et on crée, on fait de l'outil de travail qui est le siège ou les bureaux des entreprises ou des organisations qu'on accompagne, un outil de performance, voilà, avec des enjeux, on va en parler, qui ont bien changé ces dernières années.
Qui n'ont cessé de changer. Alors on va voir ensemble déjà les grandes tendances 2025, on va faire un bilan sur ces tendances, les typologies d'espace, et puis on passera ensuite à des cas concrets de réalisation, et puis on terminera avec les attentes des clients et le rôle du mobilier. Alors on va commencer peut-être avec une question. Quelles sont les principales tendances que vous observez pour l'aménagement des bureaux en 2025?
2025 est la confirmation des évolutions très très fortes qui n'ont fait que s'accélérer depuis le post-Covid. On parle d'hybridation parce que le télétravail s'est imposé dans notre quotidien. Donc évidemment, le fonctionnement des équipes dans leur quotidien et le management a dû évoluer. Donc l'espace de travail, c'est un lieu d'hybridation, c'est un lieu où on doit aujourd'hui recréer du lien sur la culture d'entreprise, sur la transmission du savoir entre les générations. C'est un lieu où on doit apporter ce qu'on ne peut pas trouver à la maison.
Voilà.
Donc on va travailler autour des usages plutôt que du mètre carré ou du poste de travail, tout ça étant une alchimie assez complexe, hyper intéressante, pour favoriser la productivité, évidemment, et l'attachement à l'entreprise.
Et qu'on soit clair, qu'est-ce qu'on appelle le travail hybride? C'est un mélange de télétravail, de
retour au travail. Alors, chacun a un peu sa définition, mais le travail hybride, c'est dire on n'a pas qu'un lieu unique pour travailler. Donc, plein de gens découvrent, quand leur entreprise décide de passer au flex office, que finalement, ils étaient déjà au flex office parce que c'est le fait d'avoir plusieurs lieux de travail pour exercer. Donc, soit on est sédentaire, mais certains étaient déjà nomades par le fait même de leur activité. Donc, c'est plusieurs lieux, donc en fonction et au sein d'un lieu qui peut être le siège par exemple, on va favoriser la mobilité. Là où on était sur la sédentarité presque à son poste de travail, vissé avec la photo de la famille ou du chien, pardon pour ces caricatures.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
Oui, ça reste encore un peu prégnant. Non, donc c'est de favoriser évidemment, en fonction de ce que l'on a à faire dans sa journée ou dans la semaine, on va à chaque fois organiser les espaces pour que le confort au travail et la productivité soit la plus importante.
Donc on est d'accord que voilà, ce travail hybride influence totalement la conception en 2025 des espaces de travail. C'est ce qui fait...
Si vous me posez la question de savoir est-ce qu'il y a des tendances en fonction des secteurs d'activité, non, en fait, c'est plutôt rentrer dans la culture et l'ADN de la boîte et de son fonctionnement. Et le service finance ne fonctionne pas du tout comme les RH ou la communication ou le commerce, par exemple. Donc, c'est vraiment rentrer de faire du sur-mesure sur l'organisation interne plutôt que sur des tendances par secteur.
Et justement, alors on parle de durabilité, d'éco-conception. C'est des mots très en vogue depuis... Depuis l'après-Covid, on va dire, ça n'a cessé d'être hyper demandé. Il y a vraiment une demande, il y a un besoin. Qu'est-ce qu'on appelle déjà de l'éco-conception ? Qu'est-ce que c'est de la durabilité dans les bureaux ? Ça veut dire qu'avant, il n'y en avait pas ?
Denis va peut-être nous en parler aussi, mais il y a une sensibilité qui n'est pas naissante et qui infuse un peu tous les secteurs sur le fait de dire bah oui, pensons à nos enfants, pensons à notre écosystème, pensons... aux dépenses énergétiques de ce qu'on est en train de réaliser. L'industrie du bâtiment a énormément progressé, celle spécifique du tertiaire avec à la fois l'aménagement et à la fois le mobilier, là aussi a fait des progrès énormes, même si dans le mobilier d'usage, il y a quelques filières de réemploi qui se sont mises en place depuis 4 ou 5 ans. Mais ça reste assez... Les marges de progression sont
il y a encore des choses à faire.
Extrêmement importantes.
Ah oui.
Mais c'est vrai que des acteurs posés historiquement ont aussi une expérience qui doit servir et diffuser sur le reste de secteur.
Et vous, Denis, c'est vrai que vous êtes en première ligne. Vous sentez cette demande qui augmente. En tout cas, moi, je la sens de la part... Enfin, quand j'interview les professionnels, il y a vraiment cette notion, cette demande, ce besoin.
Alors, ça s'est accentué sur l'année 2025. Et puis, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. À la fois l'éco-conception, à la fois aller chercher les fournisseurs de panneaux et repenser notre manière de faire ou de travailler. L'idée, c'est de pouvoir, dans cet aspect de durabilité, d'avoir des choses qui sont recyclables facilement, plutôt que de continuer à travailler avec certains matériaux qui, par habitude, étaient là, mais... Aujourd'hui, il faut essayer de trouver d'autres pistes pour accélérer cette capacité de recyclage.
Donc aujourd'hui, c'est ça le but, c'est quand on aménage des bureaux, on se dit, tiens, le matériel doit être recyclé, il doit pouvoir réutiliser si jamais on change d'usage, si jamais on...
Alors potentiellement, on va utiliser des panneaux qui sont déjà recyclés.
D'accord, qui sont déjà.
Et puis on pense aussi aux générations futures, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des types de panneaux comme le MDF qui étaient beaucoup utilisés dans la conception d'agencement.
Alors pour nos auditeurs, c'est quoi le MDF ?
Alors c'est le médium, c'est de la poussière de
bois
qui est compactée ouais. avec pas mal de colle. Aujourd'hui, on essaie d'utiliser des panneaux qui sont mieux disants en termes de recyclage, où on peut les recycler plus facilement. On va utiliser des lacs à l'eau, on va utiliser des choses comme ça qui permettent d'être mieux disant et surtout qu'on se sente bien aussi dans son environnement, parce que c'est bien d'avoir un beau bâtiment qui est éco-conçu avec bioclimatique, etc. Mais il faut aussi avoir à l'intérieur du mobilier
c'est avec la façade, moi ça m'intéresse pas.
Exactement.
Ça n'intéresse pas les collaborateurs.
Voilà.
Justement, j'aimerais qu'on parle du bien-être au travail, parce que c'est un sujet qui grandit énormément chez les collaborateurs. Aujourd'hui, et j'entends à chaque fois, même chez nos confrères des médias, tous les professionnels, les patrons qui s'expriment, c'est difficile de recruter des talents, c'est difficile de les garder, et les talents demandent de plus en plus d'être bien au travail. Qu'est-ce que ça veut dire un bien-être au travail déjà ? Qu'est-ce qu'on entend par là ?
C'est une acception assez large sur les conditions d'accueil des équipes et du collaborateur. Ouais. On peut traiter sur des sujets extrêmement larges de qualité, d'engagement par rapport aux choix de conception amont qui sont réalisés. On va mettre en scène des univers qui peuvent être différents. On aime bien travailler sur les thèmes de l'hospitality, c'est-à-dire qu'on va retrouver des choses un peu comme à la maison ou comme si on était dans un lobby d'hôtel.
Donc se sentir chez soi.
Oui, se sentir chez soi. L'objectif, c'est de valoriser l'engagement, la circulation d'informations. le fait de revenir et d'adhérer durablement. Donc évidemment, selon que l'on est dans différents sites parisiens ou pas, donc la capacité de recruter et de conserver les meilleurs talents va être un enjeu fort. Mais l'acoustique est également un sujet. On essaye aussi de traiter à l'envers ce qui relève des irritants. Donc ce qui va être...
Alors c'est quoi les irritants ?
L'irritant classique, c'est j'arrive dans une salle de réunion, je veux me loguer parce que j'ai une visio et j'arrive 2 minutes avant. Et en fait, pour se pluguer au système de visio, c'est compliqué. Ouais, ouais. Ça ne marche jamais.
Ça, c'est rageant,
les gars de l'IT ne comprennent rien. Ouais. Les pauvres, ils ramassent. Bon,
okay. Ça sent le vécu.
Ça sent le vécu. Donc, on essaie d'anticiper, de travailler sur ces irritants pour que l'expérience du collaborateur, elle soit évidemment toujours parfaite ou réfléchie en tout cas, quel que soit leur niveau d'exigence. Mais les immeubles aussi ont un rôle, et les promoteurs ou les foncières ont un rôle vraiment essentiel, parce que les immeubles de service, on voit à la Défense, il y a eu un effort terrible qui a été réalisé pour que du matin au soir, en fait, les équipes aient envie d'être là et de rester, et donc de favoriser leur qualité de travail.
Et c'est très intéressant ce que vous dites. On va revenir dessus sur la circulation de l'information qui est primordiale. Et là, cette notion, moi je relève cette notion d'instantanéité. Le collaborateur arrive, il doit se connecter en fait 30 secondes avant le début de sa visio. Ça a augmenté, ça, j'ai l'impression. Il y a cette notion d'instantanéité.
L'exigence des équipes augmente sans cesse, et ils ont raison d'avoir ce niveau d'exigence, parce que c'est un investissement de la part des directions générales qui est important. Donc allons jusqu'au bout pour que cette expérience-là, où je suis au bureau, je travaille, je collabore, soit parfaite. Et justifie tout cet investissement. Et nos outils permettent de cette immédiateté. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, on favorise la mobilité dans les espaces de travail. Je ne suis plus, je le disais tout à l'heure, affecté à rester toute
à
la journée
poste.
À mon poste. Ouais. Et en fonction de si j'ai une visio ou un appel un peu confidentiel, il faut que je trouve une faute box ou un endroit où je puisse... Voilà, et faire une réunion à 3-4, il ne faut pas que j'aille dans une salle de réunion de 50 personnes parce que je vais mal y bosser, ce serait trop grand. Et donc, il faut que tous les outils de la mobilité soient évidemment hyper efficients.
Alors, on va parler justement dans quelques instants de ces espaces, parce qu'il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. J'aimerais vous interroger là-dessus. Juste, Denis, j'aimerais votre avis justement sur cette notion de bien-être au travail, cette notion d'expérience collaborateur que vous avez citée. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans.
Alors... Très certainement, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il faut que l'expérience du collaborateur, elle soit instagrammable. Je vais un peu dans les extrêmes. Ouais. En fait, souvent, il faut qu'il y ait cet effet waouh. Et les gens qui recherchent un emploi, en fait, ils veulent être impressionnés par l'endroit où ils vont travailler. Ils veulent pouvoir en être fiers et pouvoir le montrer à leur entourage. Et quand je dis qu'il faut que ça soit presque instagrammable, effectivement, c'est comme quand on arrive dans un hôtel, on a tous pris l'habitude, tiens, je suis dans un très bel hôtel ou je suis dans un très bel endroit,
je vais faire un
très
selfie,
beau réseau,
je vais faire une story,
mon selfie, etc. Je pense et je trouve, et je le vois avec mes jeunes collègues, en fait, ce qui compte, c'est ce côté, waouh, je suis dans une belle entreprise, à la fois par ses valeurs, mais aussi à la fois par les équipements qui sont à ma disposition et qui me donnent envie de revenir. Et les 3 jours que je vais passer au siège, je passe un bon moment et je suis fier d'y être.
Alors justement, quelles sont les différentes typologies d'espaces que vous concevez aujourd'hui ? Vous avez parlé de bulles, de communication, de zones de concentration, d'espaces informels, il y a des zones de détente. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Et moi, je vois quand même un inconvénient que j'avais entendu plusieurs fois de la part de collaborateurs. C'est vrai que par rapport au bureau qu'on avait avant, avec sa petite photo, son petit endroit perso, maintenant, souvent, c'est des open space, on vient, il n'y a pas de bureau attitré. Mais ça donne quand même, ça peut donner une impression que tout le monde est remplaçable.
Je sais pas répondre à cette question.
Non, je vous ai collé là.
Oui, parce que là, vous apportez une lecture sur la sensibilité RH. Moi, je crois au contraire que je travaille vraiment en collaboration avec les directions des ressources humaines pour faire revenir, pour faire adhérer à un projet et laisser la place à l'individu. Mais favoriser le lien entre les individus.
D'accord.
Donc lorsque vous dites oui, on peut sentir, c'est un peu impersonnel d'avoir des open space où on arrive pour essayer de trouver sa place, on en est revenu. Et les entreprises qui ont fait ça aujourd'hui, et celles qu'on accompagne, on dit on va conserver un territoire. le territoire du service marketing, c'est celui dans lequel, là où on avait 25 postes de travail pour 25 personnes, on va en mettre que 18 ou 19 demain. Mais ça reste le territoire. Et évidemment qu'à l'intérieur de ça, j'ai la liberté d'aller bosser avec vous, à côté de vous demain, et puis de reproduire ça après-demain, parce qu'on a un lien naturel, fonctionnel dans l'échange informel, ou en tout cas pour l'exercice de notre métier. Mais c'est bien que dans 3 jours, je sois à côté d'un jeune collaborateur qui est arrivé il y a un an, et pour aussi transmettre les valeurs, le fonctionnement, faire gagner
du
temps.
Donc ça permet plus d'agilité, en fait.
Beaucoup plus d'agilité. Et il n'y a pas de choses qui sont imposées et contraignantes. Donc ça donne quand même beaucoup plus de flexibilité. C'est un vrai avantage.
Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les zones qui existent ? Parce que c'est vrai, bon, les zones de détente, les bulles, ça fait un peu... Ça fait envie, en fait.
Oui, ça marche très bien, parce qu'on a découpé avec du bon sens, et on le fait avec les équipes ou les responsables d'équipe, leurs tâches et presque leur semaine ou leur journée type. Pour savoir combien de réunions j'ai de combien de personnes, est-ce que j'ai besoin à certains moments de faire ces visios, et quand je les fais sur mon bench de 6, en fait je dérange les autres ou je suis dérangé par les autres, donc c'est pas un moment qui fonctionne très très bien, là où la visio c'est installée dans notre quotidien. Elle a fait gagner aussi beaucoup en termes d'énergie, de déplacement qu'on a réussi à remplacer, donc il faut créer tous ces espaces-là. La question de la concentration que vous évoquez, selon que je suis dans un service juridique ou dans un service avec beaucoup d'échanges téléphoniques, encore une fois, je fais un peu des caricatures, mais on comprend aisément que le temps nécessaire de ma journée nécessaire à la concentration ne va pas être le même. Et il faut que je puisse apporter cette solution-là. Les salles silence, c'est un truc qui fonctionne hyper bien, c'est-à-dire qu'on laisse son portable à l'entrée et on accepte l'idée que je sais ce que je vais chercher comme temps et comme exercice. Donc cette conjugaison-là rend l'équilibre extrêmement efficace.
Alors il y a un concept qui s'appelle « activity-based working ».
On vient d'en parler
C'est définir ce que c'est pour nos auditeurs.
C'est ça, c'est découper en fait, en fonction de ma journée ou de ma semaine ou de mon service, les types d'activités que je vais avoir. Est-ce que mon métier m'amène à être plus dans l'échange informel ou plus dans la concentration ou à la réunion, ok. Est-ce que mes réunions sont plutôt de 3 personnes ou plutôt de 20 personnes, durent 40 minutes ou durent 3 heures. Donc les espaces que je vais allouer à ça, si j'ai une équipe de commerciaux qui dit une demi-journée par semaine doit faire de la prospection téléphonique, c'est bien de les isoler aussi, de leur mettre des conditions de travail avec un affaiblissement acoustique, avec des casques, avec pas forcément le regard de tout le monde lorsqu'on se fait bâcher au téléphone. Donc c'est vraiment ça, c'est au regard de mon activité, je vais trouver les espaces pour y exercer de la meilleure manière, dans les meilleures conditions, cette partie-là de mon activité.
Et est-ce que ça concerne tout le monde ? Est-ce que ça concerne tous les secteurs, cette notion-là, façon de...
À la fois tous les secteurs, ce qui est certain, c'est que les grands groupes ont souvent un temps d'avance dans leur réflexion, dans leur adaptation.
Ils ont plus de moyens aussi.
Oui, ça participe au ça, de temps de la réflexion. Et évidemment, des acteurs comme nous permet d'utiliser les bonnes pratiques et de les faire ruisseler, j'ai envie de dire, sur des plus petites entreprises, des plus petites organisations qui disent effectivement, nous aussi, on a la même manière d'appréhender notre journée et nos espaces ne correspondent pas forcément à
Est-ce que
ça.
Vous vous inspirez d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que nous ?
Oui, les pays
nordiques, par exemple.
Oui, les pays nordiques ont toujours eu historiquement cette sensibilité-là. Ça a tendance à s'uniformiser.
D'accord.
Parce que quand même, l'économie s'est mondialisée, donc certains acteurs internationaux ont déroulé leurs bonnes pratiques là en Europe, là au Middle East, là aux États-Unis, etc.
Ouais. Donc, il y a des boîtes américaines implantées en France
Donc ça s'uniformise globalement.
Comment Schmitt intervient sur tous ces espaces ? IDPRO, pardon. Comment intervient IDPRO sur tous ces espaces ? Est-ce que déjà vous intervenez dans tous ces espaces qu'on a cités ?
Alors, nous, on peut intervenir dans tous ces espaces et puis on intervient une fois que la préparation, ce qu'on a entendu précédemment, c'était qu'un beau projet, il fonctionne que si on a bien préparé les choses et qu'on a écouté les gens qui vont y vivre.
Ah oui.
Et qu'on a écouté le brief et qu'on a discuté avec toutes les parties prenantes. Donc, à partir du moment où le brief, il est calé, eh ben nous, on va pouvoir venir s'intercaler en proposant des solutions pour chacun de ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on avance avec nos partenaires. Alors, pour reprendre un exemple très concret, il y a quelques années, quand on faisait une cuisine dans une entreprise, très souvent, elle faisait 6 mètres carrés. Il n'y avait pas de fenêtre. Et on disait, ben, la fonction cuisine, elle est là. Vous pouvez manger entre midi et deux.
Donc, c'était un placard.
C'était un placard. Aujourd'hui, toutes les demandes, hein, c'est on va faire quelque chose de bien, qui est à la vue de tout le monde, dans lequel on peut aussi faire des petits événements, fêter les anniversaires, etc. Et on a plaisir à se retrouver pour manger ce qu'on a amené entre midi et deux. Et donc, ça, et on va
favoriser.
C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. Et effectivement, dans les entreprises aujourd'hui, il y a plein de lieux spécialisés, mais aussi ce genre de choses que nous, chez Schmitt Group, on s'applique ces bonnes pratiques-là, hein, puisque dans nos usines et dans notre nouveau siège, on a ce qu'on appelle les work cafés. Ben, on vient boire un café, on vient manger entre midi et deux, on vient grignoter quelque chose, mais on en profite aussi pour discuter. Et c'est souvent les 5 minutes qui font déclencher les bonnes décisions. Mmh. Donc c'est une nouvelle manière de travailler. Ouais,
ouais. Je rebondis sur ce que dit Denis, mais même ces espaces-là sont de plus en plus grands, vraiment sont des mètres carrés qui sont utilisés, mais qui sont utilisés sur ces temps de pause ou d'échange, mais qu'on a tendance à eux aussi utiliser comme des espaces de travail complémentaires pendant la journée.
Exactement.
Donc c'est-à-dire qu'on va amener, le Wi-Fi va être performant, on va amener des prises pour pouvoir bosser à deux ou trois en mode projet dans l'après-midi.
Occupé.
Et ce n'est pas juste le café du matin ou la pause du déj. Ouais. Et évidemment, on en fait des work cafés au sens large, donc leur taille. Et puis, comme on se disait, la nécessité post-Covid de redonner du lien social au sein même de l'entreprise, ben c'était de donner une taille pour pouvoir permettre d'accueillir un maximum de gens.
Et c'est des endroits qui sont essentiels pour les itinérants notamment. Moi, je suis itinérant, j'habite à Lyon, je vais régulièrement en Alsace. Il y a plein de rendez-vous impromptus ou d'occasions de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrer autrement ou dans d'autres configurations d'endroits, parce qu'on était assez cloisonné, ben le service il est là, là on rencontre un peu tout le monde et ça permet de faire avancer ces dossiers ou ces réunions de travail.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des réalisations, des exemples de réalisations concrètes que vous avez effectuées?
Alors oui, pour abonder dans le sens de nos échanges, on a réalisé le siège de Kellogg's qui s'appelle maintenant Kellanova, non loin d'ici, là, dans l'immeuble de BNP Paribas Real Estate M57. La problématique fixée par la présidence France était la suivante. En fait, ils avaient du mal à faire revenir les collaborateurs. Ils étaient dans l'est de Paris. Donc, d'abord, faire revenir les équipes au bureau. Ensuite, pouvoir recruter ou limiter la casse parce qu'ils se faisaient recruter ou happer un certain nombre de collaborateurs qui allaient chez les concurrents. Donc, ils sont installés à Boulogne en réduisant la surface de 40%. On ne peut pas ignorer la question financière à un moment donné
pose.
Mais quand réduit la surface de 40% quand même, sur un bail de 6 ou 9 ans, on a matière à bien réfléchir les aménagements. Et les enquêtes internes qu'on a menées avec les RH ont témoigné. Donc on a fait du flex office, on a parlé de cette activité based working en amenant cette pluralité d'espace et d'hybridation. Et évidemment, le taux d'occupation aujourd'hui frôle les 95%. Le pari est réussi. Ils embauchent maintenant des talents de chez leurs concurrents, entre autres.
Grâce à ce siège.
Tout participe, tout va dans le sens. Évidemment, ça donne une dynamique collective nettement plus forte. Et puis, l'entreprise s'est aussi appuyée sur un immeuble avec du service. Donc, là où ils n'en avaient pas avant. Donc, évidemment, les équipes y gagnent. À tout point de vue. Donc, une vraie réussite pour eux d'avoir entamé ce projet.
Est-ce que vous voulez compléter, Denis, sur ce projet-là, par exemple ?
En fait, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté Instagrammable. En fait, à partir du moment où on se sent bien dans un endroit, qu'on est fier d'y rentrer, ben, possiblement, c'est ce qui fait aussi. C'est ce qui fait qu'on va parler de son entreprise à un de ses collègues pour qu'il la rejoigne, etc. Je pense que on dit souvent dans le commerce, la première bonne impression, c'est ce qui va faire la vente. Ben, c'est un peu la même chose en termes de bâtiment. Est-ce que j'ai envie de venir tous les jours dans cette entreprise? Est-ce que je suis fier d'être là? Ben, c'est ça.
Et vous avez eu des retours d'utilisateurs, hormis les faits là, qu'ils ont pu recruter des personnes? Est-ce que vous avez des retours directs d'utilisateurs?
Oui, parce que ce qu'on va chez Level Up, ce qu'on va essayer de ce sur quoi on travaille de façon active, c'est l'idée qu'en fait, on va fabriquer un outil de travail, un outil de performance Mais en fait, l'expérience, elle ne s'arrête pas le jour où il y a l'effet waouh, dont parlait Denis ou vous tout à l'heure, de dire ça y est, je vais Instagrammer mes locaux. En fait, non, l'histoire, elle démarre là. Or, les entreprises ou leurs équipes ou leurs métiers évoluent, donc il faut quand même garder de la souplesse pour que le temps du bail, de la vie du bail, c'est les aménagements ou l'usage nouveau qu'on a mis en place puisse bien être exploité, compris et appréhendé par les équipes. Et puis, si de temps en temps, il y a des irritants, là, parce qu'il y a un impact de l'acoustique qui n'avait pas été anticipé, il faut qu'on puisse réagir, donc vraiment être présent dans la durée pour que l'expérience collaborateur et que l'ensemble de toute cette alchimie, elle soit effective.
Si on devait résumer les tendances qui est le plus demandé par les clients, par vos clients, ce serait quoi ? Est-ce que c'est d'abord de l'esthétisme ? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a l'esthétique ? Est-ce que c'est plutôt le confort ? Est-ce que c'est plutôt cette notion de durabilité ? Qu'est-ce qui revient en tout premier lieu ?
Non, mais ce que vous avez dit, ça recoupe les principaux thèmes. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui se dégage parce que chaque fois, c'est une histoire. Lorsqu'une entreprise déménage, c'est un moment stratégique extrêmement important et enjeu fort. Et donc, en fonction de ce que recherche, en fait, l'entreprise nourrit quoi au travers de ce déménagement ? En fait, j'ai fusionné, on a racheté une société, donc il faut qu'on crée une nouvelle histoire à deux. Il ne faut pas que ce soit dans le siège historique. On est en train de croître on est en train de décroître. On a vendu une partie de nos activités. On bascule en flex office, mais notre métier reste identique. Donc, il y a à chaque fois une histoire. Donc la question de l'esthétisme, évidemment, on va intéresser tout le monde. La question financière, mais évidemment...
Donc en fait, c'est un équilibre,
Oui, c'est un équilibre, mais dont les leviers à l'intérieur même de cette équation vont différer de façon relativement forte. Mais je le redis, c'est un instant stratégique, un déménagement, un réaménagement. Denis est en train de le vivre. Ils ont construit le siège en Alsace sur une mètre.
Et c'est un moment...
La ruche est extrêmement fort pour le groupe et qui est aussi l'aboutissement de quelque chose, mais sûrement le démarrage d'autre chose. Donc c'est à ça qu'il faut répondre à chaque fois avec personnalisation.
Et du côté justement de IDPRO, c'est quoi les leviers les plus importants ?
Alors je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. En fait, il faut activer les leviers qui correspondent à ce changement de lieu. Si on a la chance d'avoir pu tester des choses dans l'ancien lieu, comme nous on a fait avec la ruche, c'est intéressant. Hein. Tout ce système de work café, on l'a testé 2 ans auparavant, avant la construction de nos nouveaux locaux, et on a vu qu'il y avait l'adhésion de tout le monde. Et qu'on savait faire les choses de manière efficiente. Donc on emménage dans 6800 nouveaux mètres carrés, dans un bâtiment en construction bois, en structure bois, bioclimatique, et dont l'aménagement a été pensé par rapport à tout ce retour d'expérience. Donc là, c'est plus facile pour nous de ne pas trop se tromper, je dirais, au départ. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte tous ces paramètres pour réussir quelque chose de bien. Donc il y a à la fois l'esthétique, il y a à la fois le côté pratique, il y a le fait qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse gagner en identité et en volonté de travailler tous ensemble.
Et puis donner... le fameux rapport tech compatible aussi.
Ouais. Oui, je peux vous donner 3 exemples vraiment sur... On a accompagné le siège de Honor, qui est filiale du groupe Huawei. Donc ils s'implantent en France. Donc là, on part from scratch. Hein, donc il faut quelque chose où ils passent de 60 collaborateurs à peut-être 200 d'ici 2 ans. Évidemment, la mobilité, la flexibilité est un enjeu essentiel pour eux. Le groupe Bellambra, qui était depuis 9 ans sur Bourg-la-Reine, s'installe la semaine prochaine sur Highline, un immeuble à Montrouge, qui est un immeuble certifié, qui accompagne leur logique et stratégie RSE. Donc, c'est pas la même problématique, évidemment. Et puis, ils passent de 3000 m² à un peu moins parce qu'ils mettent en place le flex. Donc, il y a une sensibilité sociale dont il faut tenir compte. Et puis, sur les sujets de marque, on accompagne le groupe Gessina sur tous les bureaux opérés, donc le coworking, avec un positionnement plutôt très haut de gamme. Donc là, on est sur les codes de l'hospitality 5 étoiles, luxe. Donc évidemment, on est loin, vous voyez, sur chacune de ces histoires qui sont vraiment nos clients du quotidien. Et donc, c'est difficile de sortir une tendance.
Chaque entreprise a son histoire, a ses objectifs. Si vous deviez, pour terminer, si vous deviez donner un conseil aux entreprises qui repensent leurs espaces en 2025, qu'est-ce que ce serait ? Quel serait ce conseil ?
Ne voyez pas ça comme l'immobilier ou le mobilier comme un sujet de coût, hein, mais comme un enjeu stratégique de performance, de qualité de vie au travail avec tout ce qui va, on a parlé de la fidélisation des collaborateurs, le fait de baisser l'absentéisme, d'avoir un niveau de productivité. Donc ne pas y voir un centre de coût, mais plutôt un lieu où on va pouvoir travailler sur la culture de l'entreprise, la productivité et évidemment comme un investissement rentable.
Denis, même question.
Il faut effectivement voir tout ça comme une belle opportunité de construire une nouvelle histoire et de solidifier des choses. Et puis, moi, j'insiste vraiment sur la préparation. Hein. La préparation en amont, c'est ce qui fait la réussite de ces projets-là. Décréter qu'on va changer de lieu et puis se dire bah, tout va bien se passer, non, ça ne marche pas comme ça et c'est le travail de Level Up et de tous ces confrères, d'accompagner les entreprises pour en faire un moment qui se passe bien et sur le long terme, en fait.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux, en tout cas, pour ces échanges très, très intéressants, très concrets. Et puis, ces beaux exemples que vous nous avez donnés. On retient que le bureau, en 2025, c'est plus seulement un endroit où on va travailler. On vient vraiment vivre une expérience, l'expérience du collaborateur, l'expérience de notre quotidien, de notre travail. Et puis, ça sert aussi aux entreprises à attirer, à fidéliser, à garder les talents. Merci beaucoup.
Merci,
messieurs.
Merci beaucoup.
C'était Merci. Espace à la Une en direct du CIMI sur Radio Immo. On est ravis de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro.
Le CIMI 2025 en partenariat avec IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.